Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, intriga, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Quand elle a arrêté la pilule, Marie-Adeline ne pensait pas tomber enceinte aussi vite. Ce à quoi elle s'attendait encore moins, c'était d'attendre des triplés. Après s'être fait totalement à cette idée, Marie-Adeline a malheureusement dû faire ses adieux par 3 fois, après un accouchement prématuré. Dans cet épisode, Marie-Adeline nous raconte cette grossesse inattendue, la terrible épreuve d'un triple deuil périnatal qu'elle a traversé, et comment elle s'est reconstruite grâce à 2 nouvelles grossesses. Bonne écoute!
Bonjour Marie-Adeline, merci de me livrer ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci à toi de m'accueillir chez toi.
Alors, depuis combien de temps tu es en couple avec ton chéri ?
Eh bien, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On est ensemble depuis le 14 février 2009. Et on se connaissait depuis 2006. Et donc, du coup, on s'est vraiment mis ensemble en février 2009.
Et alors, comment est venu le désir de maternité ?
Moi, je suis issue d'une grande famille. Donc, moi, j'ai 2 frères et sœurs. Et autrement, j'ai plein de cousins. Et c'est vrai que on a toujours été baignés avec des enfants. Et donc moi, c'est vraiment venu instinctivement. Après, je m'étais pas donné d'âge, je m'étais pas donné de moment précis. Et puis je me suis dit que quand j'aurais trouvé la bonne personne, je pourrais peut-être avoir des enfants. Voilà.
Et alors, vous décidez d'arrêter la pilule et tu tombes enceinte très rapidement.
On s'était dit que j'allais arrêter la pilule et puis on s'était pas mis trop la pression et puis on s'était dit plus tard ça arrivera, mieux ce sera. Et donc je pense que Johan était plus dans le sens où de toute façon elle va arrêter, on va faire attention et puis il y aura des années qui vont se passer. Sauf que ça s'est pas trop passé comme ça. 7-8 mois après je suis tombée enceinte. Et du coup, j'ai annoncé à Johan, parce qu'en fait, on construisait une maison. Mmh. Et au moment où les tractopelles étaient dans le terrain, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc, c'était un peu la panique à bord. Mmh. Lui, il n'était pas prêt du tout. Moi, ça m'a un peu fait peur aussi, parce que moi, j'étais jeune encore, j'avais 24 ans passés. Et c'est vrai que on s'est dit, de toute façon il est là, il va falloir faire les démarches. Et puis on est donc allé faire une échographie assez rapidement. J'avais eu un rendez-vous et Yuan est venu avec moi. Et il voulait pas aller dans la salle d'échographie, il y avait le bureau qui était juste derrière et la porte était ouverte.
Pourquoi il voulait pas aller dans la salle ?
Ouais, parce que je pense qu'il avait peur. Il était un peu plus. Il avait peur. Il était vraiment réticent. Il m'a dit : je t'accompagne parce que on est deux. Et cet enfant-là, il l'appréhendait vraiment, quoi. Donc, du coup, j'étais dans la salle. Lui, il était pas trop loin parce que la porte était ouverte. C'était le bureau juste à côté. La gynéco fait l'échographie. Et là, elle me dit, vous avez gagné le gros lot. Alors, je lui dis, comment ça ? Elle me dit, il y en a 2. Donc, je lui dis, Johan, il entend ça. Mmh. Et donc, il se rapproche de la salle. Et puis, il dit, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bah, en fait, il y a deux bébés. Et puis, elle continue l'écho et elle fait, bah, non, en fait, c'est pas deux, c'est trois. Donc là, surprise. Je pense que là, c'était entre rire et larmes. Parce qu'on s'est dit, bah, c'est pas possible. Enfin, on s'attendait pas du tout. C'était pas du tout une grossesse, en plus, enfin... On a... Ouais, c'était pas assisté, enfin, la grossesse n'avait pas été assistée, donc du coup, alors certes, j'avais des jumeaux dans ma famille, mais sachant qu'en plus, enfin, mes cousines... j'ai des cousines jumelles et j'ai un grand-oncle et une grande-tante qui sont jumeaux, et on nous avait toujours dit dans la famille, de toute façon, ça saute une génération. Mmh. Donc normalement, c'était la génération de nos enfants. Mmh. Donc jamais dans ma tête, je m'étais dit qu'on aurait des jumeaux, ni des triplés, encore moins des triplés. Donc là, on est sorti de la salle et on en a parlé à la gynéco et on a dit, ben en fait, on ne sait pas si on veut les garder parce que ben, on avait la maison qui était en construction. En plus, nous, on s'était un peu engagés de faire une grosse partie de l'intérieur de la maison. On s'est dit, mais on va faire comment, quoi ? Enfin, c'est pas possible. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, la gynéco nous a dit, bah, après, vous avez toujours cette possibilité d'avorter. Mais pour moi, c'était quand même... Enfin, c'était loin de m'imaginer... J'étais loin de m'imaginer que j'allais avorter. Mmh. Après, c'était une décision qui se prenait à deux, parce qu'on était deux. Et du coup on avait pris le papier quand même pour bah pour se renseigner et on est rentré dans la voiture et en fait on s'est mis à rigoler parce qu'on s'est dit mais il y a qu'à nous en fait que ça peut arriver des choses comme ça et puis là on s'est dit bon ben on va demander l'avis de notre famille aussi pour voir si bah s'ils nous suivent dans cette idée-là de garder, de pas garder, enfin on savait pas trop, on était perdus. Et donc Yoann est reparti au boulot et moi je suis partie manger chez ma grand-mère parce que je mangeais là-bas à l'époque tous les midis, tous les jeudis midi. Et du coup avant d'arriver chez ma grand-mère, j'appelle ma mère et je lui dis écoute maman, c'est pas une annonce qui se fait par téléphone. Mais j'étais en pleurs et je dis maman, j'attends, je suis enceinte et j'attends des triplés. Et là, elle me dit mais c'est génial, c'est une super nouvelle, mais trop enthousiaste. Mmh. Et je me suis dit mais je pensais en fait presque qu'on allait me dire mais ça va pas. Enfin, et en fait, non, pas du tout. Au contraire, elle était trop contente, super. Elle dit, mais c'est une super nouvelle. Mais je lui dis, mais attends, stop, on sait pas si on va les garder, quoi. Parce que, enfin, trois, tu te rends compte, comment on va faire? Elle dit, mais on sera là. Et en fait, bah, quand je suis arrivée chez ma grand-mère, pareil, je lui ai annoncé. Elle allait juste avoir ses 70 ans le lendemain. Et j'ai dit, écoute, mamie, je suis enceinte et puis j'attends des triplés, quoi. Et puis elle me dit, elle se met à rigoler. Et elle me dit, si j'avais pu miser une pièce sur toi, je l'aurais fait, quoi. Donc, du coup, elle se met à rigoler. Mon frère, quand je lui dis ça, pareil. Voilà. Donc, on garde quand même pour nous bah, cette histoire au petit cercle qui était au courant. J'avais appelé ma marraine aussi, avec qui je suis très proche et avec qui j'en avais parlé. On s'était réunis avec mes parents et Johan le soir pour dire mais on fait quoi, on les garde, on les garde pas, enfin voilà. Et le dimanche bah, qui suivait, donc c'était les 70 ans, c'était le repas de famille, les 70 ans de ma grand-mère. Et j'ai ma tante qui avait eu des jumelles justement et je sais pas, elle discutait et elle me dit si tu veux, elle n'était pas au courant du tout. Et elle me dit si tu veux je te donnerai la recette pour avoir des jumelles. Et je lui ai dit, bah en fait, c'est pas la peine. J'attends des triplés, quoi. Et donc là, c'est parti un peu en fou rire parce que tout le monde s'est dit, waouh, mais c'était la grosse nouvelle, quoi. Enfin, et donc, du coup, bah, après, en fait, on a tellement eu l'élan de solidarité, même de la part de la famille de Yoann. Ils nous ont toujours dit, de toute façon, on vous suivra quoi qu'il arrive, selon la décision que vous prendrez, c'est à vous de prendre la décision et on vous suivra peu importe la décision qui sera prise. Et en fait, avec tout cet élan de solidarité, on a dit non mais attends, c'est une chance. C'est une chance inouïe d'avoir des triplés, grossesse non assistée, enfin voilà. Donc on a dit c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous faire, quoi. Et puis moi en plus qui adore les enfants, enfin voilà. Johan qui aujourd'hui est plus que papa poule, donc enfin c'était vraiment pour nous, quoi. Et du coup on s'est dit ben on y va, on part à l'aventure et puis ben on se laisse guider, quoi.
Et ça a pris combien de temps alors pour prendre cette décision?
Ça a pris 4 jours.
Ouais.
Ouais.
Ça t'a détendu de voir aussi que toutes les femmes et mamans ouais. étaient complètement à l'aise sur le...
Exactement, toutes les femmes, toutes les mamans et puis toute la famille en fait, que ce soit des deux côtés, qui nous disent on sera là. On a de la chance en fait d'avoir une famille qui n'est pas éparpillée partout. Et on est tous réunis en Bretagne et même dans les Côtes d'Armor. Et donc du coup, c'est vrai que bah, on est tous là. Donc peu importe si on avait un souci, on sait qu'on a du monde pour nous les garder, pour nous aider. Donc c'est vrai que tout le monde s'est mis un chemin dans sa tête, quoi. Même, je me rappelle que ma mère, elle me disait bah, « Le matin, je viendrai vous aider pour le biberon. Je ferai 30... Avant d'aller au boulot, bah, le biberon du matin, je viendrai vous aider. » Et tout le monde, en fait, se disait bah, « On fera ci, on fera ça. » Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'on s'est laissé porter, quoi. Et on s'est dit bah, « C'est un super cadeau. Ils sont attendus, quelque part. » Et en fait, finalement, tout le monde était autant content que nous, au final, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que ça nous a beaucoup, beaucoup aidé, ouais.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse?
Ben, pas comme on l'aurait imaginé. Je commence, du coup, à être suivie. Je change de maternité parce que, du coup, la maternité où j'avais fait les échographies, enfin, la première échographie pour qu'on nous annonce que c'était des triplés, eh ben, elle pouvait pas accueillir, en fait, de femmes enceintes. Elle pouvait pas suivre une personne qui attendait des triplés.
Parce qu'il
y a un stade, voilà, et il y a un niveau. Et il faut que la maternité soit au niveau minimum 3 pour qu'il y ait un centre de réanimation, un centre de néonates. Et donc, du coup, on a dû me guider vers Saint-Brieuc. Et j'ai été suivie directement avec une gynécologue. Et c'était obligatoirement une gynécologue parce qu'une sage-femme, dans le début de la grossesse, c'était trop compliqué pour une grossesse, pour suivre une grossesse normalement. Et donc, la gynéco me fait la première écho, l'écho des 3 mois, l'écho morpho, comme on appelle. Et puis là, elle dit rien. Et on était tous les deux dans la salle, Yohann et moi. Et puis, elle me dit à la fin, en fait, j'ai un souci. Les 3 bébés ont des nuques épaisses. Alors, moi, j'ai 25 ans. Johan, il en a 28. En nuque épaisse pour nous, on n'en sait rien. Et j'ai de la chance d'avoir Johan qui pose les bonnes questions au bon moment. Moi, j'arrive pas trop à poser les questions et j'arrive pas trop à me dire tiens, j'aurais dû poser ça comme question. Et Johan était à côté et il lui demande ben c'est quoi les nuques épaisses. Enfin, et donc là, elle nous explique en fait que nuque épaisse, arrivée au 3e mois, c'est possible de trisomie 21. Trisomie. Et elle me dit, je vous conseille de faire une amniosynthèse parce que là, il y a 3. Et les 3 sont susceptibles d'être trisomiques. Donc là, recoup de massue, on redescend encore dans un étage. Et on se pose les bonnes questions, on sort de cette visite et on nous dit, on se dit, ben... on est obligé de faire la myosynthèse. On ne peut pas passer à côté de ça. On est jeune. Malheureusement, c'est 3 enfants trisomiques. C'est pas... Enfin, c'est dur, quoi. Et là, on commence à paniquer. On commence à se dire, mais il va y avoir un souci. Enfin, donc du coup, on en parle autour de nous. Et j'en parle à ma maman. Et ma maman me dit, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir 3 enfants trisomiques. En même temps, c'est pas possible. Elle me dit, j'en suis sûre qu'il n'y a rien. Et puis je lui dis, mais maman, on sera quand même obligé de faire la myosynthèse. On peut pas passer à côté si on s'en voudra. Enfin, on s'en voudra toute notre vie parce que ce sera dur à porter. Enfin, là, c'est toute notre vie que ça va être difficile, quoi. Et du coup, c'est plus une question de 2-3 ans, le temps de les lancer, les petits, pour aller à l'école, pour qu'ils soient commencer à être autonomes. Là, ça va être toute une vie, quoi. Et donc, le jour de l'amniocentèse est posée, et ça tombe le jour de mes 25 ans. Donc, le 16 juin, je passe l'amniocentèse, on arrive au quatrième mois terminé, on débute le cinquième. Et du coup, on passe l'amniocentèse et ils nous disent, bon, ben, l'amniocentèse s'est très bien passée. Maintenant, résultat, alors 15 jours après pour les débuts et les débuts des résultats, là, c'est on voit si y a une anomalie ou pas. Et ensuite, les résultats complets d'ici un mois.
C'était douloureux, l'amniocentèse ?
C'est pas agréable, ouais, on va dire. Surtout que là, en plus, il faut prélever pour les trois. Sachant que donc il y avait deux dans une même poche et un dans une autre. Donc du coup, ça voulait dire que de toute façon, si il y avait, non, est-ce que je dis pas bêtise, s'il y avait le liquide amniotique qui était et on récupérait justement une anomalie sur là où il y avait deux bébés. Ça voulait dire que les deux bébés étaient atteints.
D'accord. Mais pas forcément le troisième.
Pas forcément le troisième. Mais donc, du coup, il fallait prélever dans les deux poches. Et justement, il y a aussi, normalement, dans une grossesse avec un seul bébé, on peut faire une prise de sang. Mmh. Sauf que là, étant donné qu'il y en avait trois, ça ne marchait pas. D'accord. Donc, du coup, on est vraiment été obligé de passer par l'amio. Et donc j'ai terminé l'amniocentèse et en fait tu vas en clinique deux jours hein, et puis tu ressors une heure après ou deux heures après. Et donc on est ressorti de là et puis on a dit bon ben vivement dans 15 jours quoi. Mm. Et donc 15 jours après, l'hôpital nous appelle et nous dit c'est bon, il n'y a pas de trisomie, les bébés vont super bien et vous pouvez y aller quoi maintenant. Donc là, grosse joie, enfin on peut se projeter, on y va, trop contente tous les deux, on commence à acheter des pyjamas, on commence à acheter des petites tenues, on achète tout le temps trois, enfin, et d'ailleurs quand on va dans les magasins, ils nous demandent, mais pourquoi trois à chaque fois, pourquoi trois pareils? Donc on explique, ben, on attend des triplés, donc c'était un peu, enfin on était fiers quoi, et du coup, le mi-juillet, on a les résultats finaux. Et puis, en effet, il n'y a rien du tout. Et on y va, quoi. Donc, à la mi-juillet, sachant que j'étais suivie tous les 15 jours, quand même.
Tu faisais une écho
tous les 15 jours. Écho tous les 15 jours, avec la gynéco. Et là, mi-juillet, donc, elle nous annonce donc, les fameux résultats. Et j'étais avec ma maman. Et puis, on fait l'écho, tout va bien. Ils ont une croissance au top, enfin voilà, tout est excellent. Et elle me met en garde encore pour me dire attention, de toute façon, grossesse triple, grossesse à risque. Yoann n'était pas avec moi et moi je pose pas la question. Grossesse à risque, c'est quoi? Et pourtant, on me l'a dit, mais toute ma grossesse. Donc je pars, trop contente, tout va bien, je vais me baigner, je fais de la voiture. J'avais arrêté, enfin j'étais en congé maternité, mais je faisais tout.
T'étais à combien de mois ?
Je marchais à 5 mois et demi. Je marchais, enfin tout était mais nickel quoi. Enfin vraiment au top quoi.
Physiquement, t'avais pas.
Physiquement, j'avais rien. J'avais été malade les 3 premiers mois. J'avais perdu 15-16 kilos. Ouais. Et en fait, mais pour moi, c'était les joies, quoi. Enfin, c'était la joie, je me disais, mais je suis enceinte, en plus des tripés, enfin, vraiment, je voyais même pas ça comme un inconvénient, quoi. Rien du tout. Je continuais ma vie, je me baladais dans ma ville, j'arrive chez un poissonnier, là, chez le collègue de mon papa, et il disait à ses clients, mais vous rendez compte, elle en attend trois, quoi. Je faisais, mais ma vie. J'allais me baigner tous les jours. Enfin, voilà. Ma vie, c'était nickel. Et arrivé début août, donc le dimanche soir, Bah déjà, je les sentais beaucoup bouger. Hein. Il y avait les mains, les pieds. Et puis là, bah, t'en as quand même 6 pieds et 6 mains. Donc, ouais. Donc il y a du monde. Et je dis à Yoann, écoute, mets ta main sur mon ventre et tu vas les voir, tu vas les sentir. Et là, il met sa main et... Mais ni une ni deux, un gros coup de pied. Et puis, il dit, wow, c'est impressionnant. Enfin, voilà. Et là, je pense que là, il s'était dit... Aïe, quoi, ça va être trop bien, ça va être génial, on va pouvoir s'éclater avec 3 enfants, ça va être du sport, mais on va y aller, quoi.
Il a réalisé à ce moment-là.
Ouais, je pense qu'il a réalisé à ce moment-là. Parce que du coup, tu te protèges, tu mets une carapace, on t'apprend que finalement, bah, c'est possible qu'il soit trisomique, après on te dit non, après donc du coup, tu te protèges quand même.
Oui, puis il les a pas dans son corps.
Exactement, il les porte pas... Enfin, voilà, comme il me dit toujours, il me dit, t'as eu une relation particulière avec eux, enfin, t'as une relation particulière. Et le lendemain, donc ce fameux lundi, le 4 août, je me lève, je vais bien, et puis en même temps, je me dis, bon, ben, ça va, mais je sens un peu tiraillée quand même. Je me sens un peu tiraillée, je me dis, bon, de toute façon... Demain c'est l'échographie de contrôle, donc allez, je vais passer, ils vont m'aliter je pense, parce que je commençais à, voilà, ça commençait à être un peu dur, voilà, c'est début du 6e, bon bah voilà.
Mais tout ça, on t'avait dit que c'était possible que tu sois alitée, que...
Ouais, alitée, ouais, on m'avait dit que c'était possible qu'on m'alite, parce que ben, du coup, le col pouvait s'ouvrir, mais pas, on m'avait jamais parlé de grossesse, d'accouchement prématuré.
D'accord.
Jamais. Et moi, pour moi, c'était... Pourtant, je savais ce que c'était. Mais pour moi, j'ai jamais pensé, quoi. Mm. Jamais. Et donc, le lundi matin, je me lève tranquillement, tac. Donc, je fais ma petite vie. L'après-midi, je vais voir mes grands-parents. Et puis, je fais le tour un peu du quartier. Et puis, je vais voir mon autre grand-mère. Et puis, elle était pas là. Et je me suis dit, bon, il fait beau, elle doit être à la plage. Donc, je descends à la plage. En plus, il faisait assez chaud. Je me suis dit, tiens... En plus, je me sentais un peu coincée et il y avait toujours un qui se bloquait en dessous mes côtes. Et du coup, je me disais, ben, quand j'allais me baigner après, il se changeait de position. Donc, du coup, c'était plus agréable. Et là, je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion. Je vais aller me baigner. Comme ça, je vais être moins dérangée. Et puis, comme ça, ça va être nickel. Et donc, j'arrive à la plage. Et ma grand-mère était là. Et puis, du coup, je lui dis, oh là là, il est coincé en dessous mes côtes. Là, ça me fait super mal. Je vais aller me baigner parce que... Et puis je lui dis, et puis de toute façon, je sais que demain, c'est rendez-vous de contrôle. Je vais être alitée, quoi. C'est pas possible. Je vais trop bien pour... Enfin, pour que... Voilà. Que... Et du coup, elle me dit, bah, va te baigner. Et puis donc, je me baigne, je reviens. Et puis je lui dis, écoute, ça va pas. Elle me dit, bah, si tu veux, on peut aller à l'hôpital et on va aller faire un contrôle. Enfin, voilà. De toute façon, il m'avait dit que si jamais j'avais le moindre doute, je pouvais y aller. Et donc, je dis, bah ouais, je veux bien qu'on y aille. Mais le problème, c'est que l'hôpital, il est à 3/4 d'heure de là où on était. Donc, on s'était dit, bon, bah, on s'habille et puis on y va. Et en m'habillant, je perds les os. Donc là, c'est un peu l'hécatombe. Je commence à me mettre à pleurer. Je dis à ma grand-mère, ben, je te donne mon téléphone. T'appelles les pompiers, t'appelles Yoann. Et je dis, bah là, de toute façon, on est à 24 semaines, c'est mort, quoi. Je dis, c'est le début du cauchemar. Enfin, je savais que c'était le début du cauchemar. Et du coup, elle me dit, ne panique pas, tu t'assois, j'appelle les pompiers. Donc, on appelle les pompiers. Et puis, il y avait des copines de ma maman qui étaient sur la plage. Et puis, elles voient un peu ce qui se passe, et elles viennent me voir et elles me disent écoute, ne t'inquiète pas. Et il y en a une qui me dit j'ai eu des neveux jumeaux qui sont nés très prématurément, et en gros tout va bien. Donc ne t'inquiète pas, tout va bien, on va s'occuper de toi et tout va aller pour le mieux. Les pompiers arrivent, ils m'embarquent. Et puis là, ils m'auscultent et ils disent rien. Et donc, je leur dis, il se passe quoi? Est-ce qu'on va pouvoir me garder? J'ai juste perdu les os. Est-ce que peut-être on va pouvoir garder 3, 4, 5 jours? Et ça peut être hyper important, quoi. Les 3, 4 petits jours, ça peut être 3, 4 petits jours en plus, quoi. Ils me répondent pas. Ils savent pas trop comment faire. Ouais. Et en fait, on est dans un petit village. Donc du coup, le SAMU était avec eux. Le médecin m'ausculte et donc du coup, il me dit, enfin, il me parle pas trop, mais il était en lien avec direct la maternité de Saint-Brieuc. Et du coup, on me dit rien. On me laisse un petit peu prendre mes émotions, enfin, et quelque part, on me laisse aussi psychoter. Donc, en fait, j'essaie de poser des questions. Ils me disent, pour l'instant, on ne vous dit rien. Pour l'instant, calmez-vous, prenez du souffle. Enfin, voilà. Et donc, entre-temps, Yoann arrive. Mais Yoann ne peut pas monter avec moi. Il faut qu'il parte chercher mon dossier médical qui est à la maison. Parce que moi, je n'avais pas mon dossier. Et donc, du coup... le SAMU est là, il y a une équipe de SAMU et à mi-route, donc à 20 minutes, on doit faire changement de SAMU et repartir avec le SAMU de Saint-Brieuc. En fait, ils se rejoignent parce que c'est des petits villages et du coup, il n'y a pas de SAMU partout. Ouais. Et donc du coup, au cas où qu'il y ait une autre urgence, du coup, l'autre SAMU repart et moi, je suis suivie avec celui de Saint-Brieuc. Et donc là, on arrive à ce fameux... changement, et la pédiatre monte dans le camion avec nous. Elle vient me voir et me dit « Vous savez, madame, vous êtes à 24 semaines. » Donc là, en général, ce qu'on fait, c'est que les femmes, elles accouchent et on laisse mourir vos bébés. On les laisse comme ça. Ah. Donc là, je dis « Ben non. » Je dis « Non, on est en 2014. » je lui dis, il y a des néonates. J'ai un cousin qui est né à 6 mois. Il était en 2000. Il faisait 878 grammes. Il s'en sort super bien. Il est en bonne santé. Il est en pleine forme. Je lui dis, mes enfants, ça va être pareil. Donc, je lui dis, là, il n'y a pas possibilité. Enfin, il n'y a pas moyen. Je ne peux pas les laisser mourir comme ça en n'ayant rien fait. Mmh. Et donc, du coup, elle me dit, on va voir ce qu'on peut faire. Et pendant la route, je dis, là, par contre, il y a un problème, j'ai envie de pousser, quoi. Ouais. Je peux plus, quoi. Et là, on me dit, essayez de vous retenir. Il reste encore 20 minutes. Essayez de vous retenir. Même s'il y avait un camion derrière avec tout ce qui était service de réa et tout, ils me disent, c'est mieux que vous accouchiez à la mater, quoi. Donc on arrive à la mater, on me met dans une salle, là il y a le branle-bas de combat, il y a un gynéco, il doit y avoir deux, trois sages-femmes, trois aides-soignantes, enfin il y avait une armée, quoi. Ouais. Et là, donc on m'ausculte, et là, aïe, je sais enfin ce qu'il y a. C'est que Laszlo, le premier, est engagé, mais par contre il n'est pas du tout bien engagé. C'est le bras et la jambe qui est engagé. Donc là, la gynéco m'explique et elle me dit, on va essayer de le re-rentrer pour qu'il ressorte le mieux possible. Donc elle le re-rentre et à 17h55, Laszlo naît, mais genre une minute après que je sois arrivée, quoi. Enfin, je pouvais plus, quoi. Et donc, il sort et là, ils le prennent direct en charge et puis ils l'envoient en réa. Donc je ne le vois pas. Johan n'avait pas eu le temps de revenir. Et d'arriver surtout. Et puis en fait, ils me disent il est mort. Ok. Donc là, je me bloque. Et là, je dis de toute façon, il en reste deux. Et je lui dis de toute façon, là, il va me falloir faire une césarienne. Parce que vous n'allez pas me laisser accoucher par voie basse avec des petits gabarits comme ça. Ils vont être abîmés. C'est pas possible. Donc, si vous m'ouvrez, ils vont être plus en forme et ils auront moins souffert que si j'accouche par voie basse. Et donc là, Johan arrive entre temps. Donc là, lui, il n'avait rien suivi. Enfin, il n'a pas suivi que j'avais déjà accouché de Laszlo. Il arrive, je lui annonce que Laszlo est décédé. Et donc là, il me dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, la pédiatre, je lui dis, Johan, je ne veux pas accoucher par voie basse. Je lui dis, je veux qu'on me fasse une césarienne. Je veux qu'on donne le plus de chances possible à mes enfants de survivre. Et là, la pédiatre le chope et elle lui dit, écoutez, venez voir votre premier. Et vous allez... Donc c'était toujours la même pédiatre qui m'avait dit texto que les bébés n'allaient pas survivre de toute façon. Et elle lui dit, ben en fait, vous allez aller voir votre premier, vous allez aller voir l'état dans lequel il est. Et là, vous allez dire à votre femme qu'elle n'a pas le choix d'accoucher par voie basse. Donc Johan y part, il voit Laszlo. Laszlo était rempli d'hématomes parce que du coup, il avait tellement souffert que, avec des petits corps comme ça, des petits vaisseaux, ça faisait des marques tout de suite. Et du coup, Johan revient dans la salle et me dit, la salle d'accouchement, et il me dit, Marie, vas-y. Vas-y. De toute façon, en fait, ce qu'il voulait me faire comprendre, c'est qu'il n'y aurait pas d'issue. Quoi qu'il en soit, il n'y aurait pas d'issue. Et du coup, ce qu'il voulait me faire aussi, je pense que c'était pour moi, c'était un bien pour moi, peut-être pas pour les enfants, mais pour moi, parce que ils se disent, on sort d'une césarienne, on peut pas remarcher, on peut pas... Et selon ce qui va se passer dans les heures à venir, si elle peut pas marcher, si elle peut pas aller voir ses enfants, ça va être une catastrophe, quoi. Donc du coup, Yuan m'a pris la main, il m'a dit, vas-y. Et donc, dans l'espace de temps, en fait, il s'est passé une demi-heure, quoi.
Oui, pendant laquelle tu gardais...
Ouais, je gardais les deux autres. Et Paulou est arrivé après, et Laszlo est arrivé, genre 2 minutes après Paulou, quoi. Donc c'est que vraiment, mon corps, il avait bloqué, quoi. Et donc, voilà, et donc là, on me met dans le fauteuil, peut-être dans le fauteuil roulant, peut-être 1 heure après. Donc j'avais mes parents qui étaient là et Johan, et on me dit, est-ce que vous voulez aller voir les enfants?
Et on t'avait dit s'ils étaient en vie ou
pas? Entre temps, en fait, on m'avait annoncé que finalement, Laszlo était vivant.
Ok.
Et du coup, je savais en fait que Paul Lou et Faust étaient vivants aussi. Donc du coup, j'arrive dans la petite salle, et là, je vois que Paul Lou et Faust.
Donc les deux derniers.
Les deux derniers. Et ils étaient dans des petits sacs de congélation, en fait, parce qu'ils les mettent pour garder la chaleur et pour pas qu'ils refroidissent, en fait.
D'accord.
Ils les étaient intubés de partout. Et donc là, on a réussi à venir dans cette salle avec mes parents et Johan. Et on nous a expliqué le process. Et on nous a dit, maintenant, c'est pas une question de jour. Enfin, c'est pas... jour par jour, de jour en jour qu'on va voir l'évolution, c'est d'heure en heure. Là, c'est même pas une question de jour, c'est une question d'heure. Et donc, il me dit, là, Laszlo est déjà parti en réa, donc dans le service, et donc les deux autres vont partir, vont le suivre. Donc, ils sont partis là-bas. Moi, on m'a emmenée dans une chambre. Et on m'a dit, on vous appelle quand vous pourrez aller les voir. Et ensuite, il y aura une pédiatre qui viendra vous parler et vous expliquer un peu les faits.
D'accord.
Donc là, en fait, le service avait changé de pédiatre, puisque du coup, c'était les changements. Et donc, on a eu une autre pédiatre. Elle est rentrée dans la chambre et elle nous a dit, Laszlo a beaucoup, beaucoup souffert. Il a déjà eu une transfusion. À savoir qu'il faisait entre 680 et 720 grammes, les trois. Donc c'était des tout petits bébés, quoi. Et une transfusion pour un si petit corps, c'est énorme, quoi. Fin. Et donc on nous a dit... je pense qu'il ne tiendra pas la nuit. on pense que Laszlo pourra pas survivre. Donc voilà, on vous appelle, on vous tient au courant. Et donc Johan, entre-temps, a voulu partir se reposer. Il est parti. Il en avait plein de choses à récupérer à la maison, enfin des affaires pour moi. Donc du coup, il m'a dit, je profite de ce moment-là et je reviendrai. Je reviens. Et du coup, on est arrivé à... Il était une heure. Ouais, une heure. Et là, le service Réa qui m'appelle dans ma chambre et qui me dit, c'est la fin pour Laszlo, est-ce que vous voulez venir? Donc du coup, j'ai dit oui. Et donc, ils m'ont... L'aide-soignante m'a envoyé en fauteuil voir les enfants et surtout Laszlo, et ils m'ont donné Laszlo et en fait ils l'ont débranché. Donc en fait Laszlo est décédé dans mes bras à une heure et demie à peu près, quoi. Donc là en fait avant qu'ils partent, je lui ai dit de toute façon il y a tes frères qui vont se battre, tes frères vont se battre pour toi. Enfin, on sait que tu t'es battu, on sait que t'es un guerrier et on t'en veut pas. Enfin, on t'aimera toujours, quoi. Et je lui ai donné le pyjama à la, je lui ai donné son pyjama à la à l'aide-soignante et elle l'a repris. On est resté une heure ensemble avec Laszlo et elle l'a repris après. Elle est partie l'habiller et il est parti en chambre mortuaire dans la nuit, quoi. Donc là, c'était un vrai cauchemar. Et en fait, quelque part, je m'en rendais même pas compte, en fait. Je faisais les choses...
Par automatisme.
Ouais, par automatisme. Je pleurais même pas. Je me rendais pas compte.
Mais t'avais la vie de tes deux autres.
Et j'avais la vie des deux autres à... il fallait qu'on se batte pour les deux autres, il fallait qu'on se batte pour Laszlo aussi, et donc du coup on s'est dit, je me suis dit non, on peut pas. J'ai appelé du coup Johan pour lui dire que c'était fini, parce que du coup Johan n'était pas là. Et en fait après on parlait en fait tous les deux au téléphone, on est peut-être resté une heure au téléphone, et en fait on était c'était linéaire, quoi. On n'arrivait même pas à dégager nos émotions. Et donc, j'ai réussi à m'endormir un petit peu. Et à 6h moins quart, on me réappelle dans ma chambre. Et là, on me dit, Faust est en arrêt cardio-respiratoire. On fait tout pour le réanimer. On vous tient au courant. Et donc là, c'est recoup de massue. Et on se dit, en fait... moi, je me dis dans ma tête... Comment ça va se passer? Parce que du coup, Laszlo est décédé. Il va falloir faire des funérailles pour Laszlo. Et je me dis, on perd encore un autre, ou les deux, et qu'on a déjà fait les funérailles pour un, il va falloir refaire le... Enfin...
Parce que t'as combien de temps?
Je sais même pas combien de temps j'ai, mais du coup, c'est la question qui m'est venue, quoi. Comme si je le sentais, en fait, que de toute façon, voilà. Et donc, à 6h15, on me rappelle et on me dit, c'est bon, Faust est reparti. L'état est stable. Son état est stable. Donc là, j'ai ma famille qui arrive le matin. J'ai ma maman, ma sœur... Johan qui arrive, et en fait, on ne savait plus quoi faire. Est-ce qu'il fallait aller voir Faust et Paul Lou en réa, ou est-ce qu'il fallait aller voir Laszlo à la morgue? Et donc, on décide d'aller voir Laszlo à la morgue, et on s'est dit, on ira voir les gars vers midi, quoi. Donc, vers 10h, on est descendu voir Laszlo, et Paul Lou et Faust, on est allé les voir vers midi. Et là encore, pareil, l'instinct de Johan qui pose les bonnes questions au bon moment. Il voit les infirmières nous dire bonjour, faire les soins, mais ne pas nous regarder dans les yeux. Baisser le regard, éviter notre regard, en fait. Et là, Johan, il en attrape une et puis il lui dit « J'ai besoin de voir la pédiatre et qu'elle vienne nous dire qu'est-ce qui se passe, quoi. » Et moi, en fait, j'étais dans le déni total. Parce que j'avais mis ma main auprès des gars, ils serraient les mains, donc je me disais, ils sont à la vie, quoi. Enfin, ils sont en vie, quoi. Donc, on y va, quoi. Ils vont se battre. Et la pédiatre est arrivée, et la pédiatre nous a dit, en fait, ils ont des taches au cerveau, ils ont des hématomes au cerveau, le traitement qu'on devrait leur impliquer est trop lourd pour eux, et avec une minime chance de s'en sortir. Et là, elle me dit, ce qu'on vous propose, c'est de mettre votre lit de chambre dans la chambre des garçons, de passer du temps avec eux et de les débrancher. Et là, je lui ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils soient dans mes bras et qu'on débranche. Enfin, c'est inconcevable. C'est malgré que je sache que c'était le mieux pour eux, parce que c'était le mieux pour eux, et bien du coup, je n'arrivais pas. Enfin, je pouvais pas l'entendre. Et en fait, moi, je suis comme ça, j'ai besoin d'un temps de digestion, et après, on y va. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, on y va. C'est le mieux pour eux. Tout le monde est là, tout le monde est présent avec nous, et donc du coup, on y va, quoi. Donc ils nous ont mis mon lit dans la chambre et ils nous ont installé les garçons. Donc Johan avait Faust et moi Paul Lou. Et donc on les avait tous les deux et à un moment donné ils viennent nous voir et nous disent vous nous dites quand c'est le moment pour y aller. Et donc on a dit on y va alors, quoi. Et donc, ils les ont débranchés, et puis t'as toutes les machines, enfin, on débranche tout, quoi. Et donc, ça sonne de partout, et puis on voit le monito avec les battements du cœur qui descendent, et encore, je trouve que ça va pas vite, quoi. Enfin, c'est tellement lentement, et donc, du coup, je me dis, ils s'accrochent, quoi. Ces petits bouts, ils s'accrochent, quoi. Et en fait, donc ils s'éteignent. Et je me remets, en fait, sur le lit. Je me réinstalle. Je réinstalle Paul Lou contre moi. Et le cœur repart. Et du coup, là, je me dis, mais c'est dingue, quoi. Enfin, je me dis, c'est un truc de fou. Comment ils peuvent s'accrocher comme ça et que t'as pas la fin, enfin la t'as pas le secret pour qu'ils puissent s'en sortir, quoi. Personne n'a le secret, personne ne peut, en fait, on n'a même pas les capacités de le faire, et donc du coup c'est fini, en fait, quoi. C'est fini, les gars sont décédés. On était dans l'euphorie d'avoir des triplés. On a eu les montagnes russes pendant toute la grossesse, quoi. Et donc, ils sont décédés le 5 août, du coup. Et puis, donc, après ça, on nous demande... qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on organise les funérailles? Donc là, la question, c'est de savoir... est-ce qu'on fait une cérémonie? Nous, on est catholiques, et donc du coup, on s'est dit, est-ce qu'on fait une cérémonie à l'église? Après, on s'est dit, c'est difficile, parce qu'en plus, on n'a pas eu le temps de les baptiser, on n'a pas pu, et puis ils sont petits, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les enterre? Est-ce qu'on les incinère? Et donc du coup, on a décidé de les incinérer. En fait, on en avait discuté, Yohan et moi, à l'époque, je me sentais pas capable d'aller... Ou je me disais aussi que, inconsciemment, aller sur leur tombe chaque jour, chaque semaine, ça allait être douloureux, ça allait être dur, et peut-être que on aurait plus de mal à s'en remettre. Et du coup, on a décidé de faire une cérémonie à la chambre funéraire. Et on nous demande de choisir des musiques, des textes. Donc là, on avait écrit un texte et ma sœur et mon frère avaient écrit un autre texte.
Donc ça se passe dans la maternité ?
Non, ça se passe dans un salon funéraire dans la commune en fait, de Saint-Brieuc. Et là, en fait, ça s'est... Donc, on a donc moi, je suis sortie de la maternité le mercredi. Donc eux, ils sont nés le lundi. Donc je suis sortie 2 jours après. J'ai dit, je m'en vais de là, je ne peux plus. Quoi. Enfin... Et donc, du coup, on les a incinérés le jeudi. Le jeudi 7. Et on avait invité toute notre famille proche. Donc il y avait tous nos proches qui étaient là. Et puis on avait besoin, quoi. On avait besoin d'eux pour pouvoir surmonter ça. Et du coup, en fait, c'est une force. C'est une force. On les a eus pour le début, pour l'annonce, et on les a eus pour la fin aussi. Mmh. Et ça nous a aidés, mais à un point énorme. Du coup, Johan a décidé, après l'enterrement, de partir à la maison, de tout ranger, en fait, de classer toutes les affaires, mettre dans une valise toutes les affaires des petits. Et moi, j'ai dû rester chez mes parents 2-3 jours pour... je pouvais plus, en fait, rentrer chez moi, quoi. Voilà. Et ensuite, après... on s'est dit, il nous reste quoi à faire ? Il nous reste à aller à fond dans notre maison. Parce qu'en fait, cette maison, le souci, c'est qu'on était censé être 5 à rentrer dans cette maison. Et en fait, on n'allait être que 2, quoi. Mmh. Donc, on a construit notre maison, on s'est mis dedans à fond, à fond, à fond. On nous avait demandé si on voulait être suivi par des médecins, par des psychologues. Moi, j'avais dit non. J'avais dit non parce que en fait j'en parlais librement et je me disais que j'estimais pas le besoin en fait d'avoir un psychologue. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est le fait que en fait ça ait incité Yuan à ne pas en prendre non plus.
Et tu penses qu'il aurait eu besoin?
Et lui m'a toujours dit vu que tu as dit non, moi j'ai dit non aussi. Alors que finalement on est pas tous pareils et finalement lui il en aurait eu besoin et peut-être que si moi j'avais dit oui il m'aurait suivi et on aurait fait peut-être cette thérapie ensemble. Enfin on n'en sait rien et
t'as jamais changé d'avis sur le fait d'aller voir quelqu'un?
En fait après j'ai eu des soucis et de santé, j'avais mal au ventre et on me disait que c'était des crises d'angoisse. Du coup, j'en avais parlé à mon médecin traitant et mon médecin traitant m'avait dit il faudrait peut-être faire des séances d'hypnose et ça vous aiderait. Et elle en faisait. Et c'est vrai qu'après les séances d'hypnose, j'avais plus mal, quoi. Ça, c'était un an et 3-4 mois passés, quoi. Donc, pendant un an, on n'a pas du tout pris de médecin, quoi. Donc on s'est mis à fond dans la maison, à fond, à fond, à fond. Et on s'était dit aussi, on se met pas la pression, mais la seule chose qui pourra nous faire remonter, c'est que je retombe enceinte, en fait. Qui est un autre objectif, en fait, pour nous, quoi.
Vous parliez beaucoup de tout ce qui s'était passé, les deux ?
On a parlé beaucoup, beaucoup. Et ça d'ailleurs, je remercierai jamais assez parce que c'est Yohan qui m'a porté, quoi. Yohan, il m'a porté pendant un an, c'est lui qui m'a soutenue. Je peux pas dire que c'est moi qui ai soutenu Yohan. Je l'ai soutenu après, parce que lui, par contre, c'est lui qui est tombé après. Mais pendant la première année, c'est lui qui me relevait, quoi.
Et tu travaillais, toi, à ce moment-là ?
En fait, alors, j'étais en congé maternité. Du coup, je devais avoir mon congé maternité des triplés. Donc, je devais avoir le congé mat jusqu'à mai de l'année d'après. Donc, mai 2015. Et trois mois après, j'avais annoncé à mon employeur que je voulais reprendre. Parce que je pouvais pas me dire je vais rester à la maison, je vais psychoter, je vais ressasser et non, aller au boulot, ça va me permettre de penser à autre chose. Sauf que du coup, trois mois après la naissance des triplés, des gars, je suis retombée enceinte. Et donc, on était en plein travaux. Et
c'était une grossesse surprise.
On essayait, mais on se disait pas que ça arriverait tout de suite. On se mettait pas la pression, parce que c'est vrai qu'on s'était dit si on fait un blocage psychologiquement, ça voudrait dire que peut-être on n'aura pas d'enfant d'ici des années. Donc on se disait on se protège pas, mais ça viendra quand ça viendra. Et si on avait voulu faire exprès, on n'aurait pas réussi. Parce que finalement, le terme est prévu le 9 août. Donc finalement, une semaine après les gars. À peine après les gars. 5 jours après. Et donc là, les médecins me prennent en charge plus qu'il ne faut.
J'étais à la même maternité.
J'ai gardé ma gynéco. Et elle me dit... le terme est prévu le 9 août. Est-ce que vous voudrez... être déclenché avant ou est-ce que vous voudriez qu'on programme l'accouchement pour pas que ça tombe dans cette date-là. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que j'ai dit si le petit frère doit naître la même date que les gars, et ben ça se fera comme ça. Mais par contre, j'ai jamais pensé à me dire qu'il naîtra le jour de leur décès. Et encore moins le jour de leur funérailles. Jamais. Jamais je me suis dit, non, il naîtra pas le 7, il naîtra pas le 5. Par contre, s'il naît le 4, c'est génial. Et du coup, j'ai dit, non, on laisse faire la nature. Et on y va, quoi.
Et comment t'étais, toi, pendant cette grossesse? Est-ce que t'avais des appréhensions?
C'est là qu'on m'a décelé ces fameuses crises d'angoisse. J'ai commencé à avoir des crises me morfondre par terre, je ne pouvais plus respirer, c'était horrible. La gynéco m'a arrêtée au bout des 4 mois parce que le placenta était bas et du coup elle m'a dit on prend pas de risque. Et en fait, la grossesse en réalité elle s'est super bien passée, mais comme il y avait des antécédents, c'était impossible que ça se passe bien. Psychologiquement, c'était impossible. Et donc du coup, je me faisais du souci. Il fallait que je passe ce cap des 24 semaines et que je me dise, on a passé ces 24. Après, on passe les fameuses 27 où on dit que c'est très prématuré mais qu'il y a des chances de s'en sortir. Il fallait que je passe le cap des 32. En fait, j'allais étape par étape. Et donc le terme était prévu le 9. Donc, entre-temps, moi, j'avais repris le boulot. Et j'ai travaillé que 2 mois. Mais comme j'avais annoncé que je revenais au mois de janvier, je savais, en fait, que j'étais enceinte quand j'ai annoncé que je reprenais le boulot. Mais du coup, après, ils m'ont remise en arrêt. Et en fait, le terme prévu le 9, et je me disais, de toute façon, je vais naître... il va naître avant, puisque de toute façon j'ai accouché avant pour les triplés, enfin voilà. Et donc ça s'est pas passé comme ça, parce que finalement le 4, il est passé. Le 5 août s'est passé, le 6 août s'est passé, le 7 août s'est passé. Et le 8 août, on s'était dit, on ira manger le soir au resto, vers Saint-Brieuc, parce que du coup c'est à 1 heure de chez nous. On prendra les valises, et puis on verra peut-être que ça le fera venir. On savait que c'était un petit garçon, donc c'était un peu la suite des gars. On va à la plage toute la journée. Toute la journée, on a passé une super journée ce 8 août-là. On passe la journée à la plage, on rentre à la maison, on se change, on se douche, on se met propre, beau. Et on se dit, on met les valises dans la voiture, quoi. Je te le donne en mille que je pose mes fesses dans la voiture et les contractions commencent.
T'avais pas perdu les os ?
Rien. Donc je lui dis à Johan, tu me croiras pas, mais je commence à avoir des contractions. Bon, il me dit arrête tes conneries, je lui dis non, je te jure. Donc je lui dis, bah, ce que je te propose, c'est qu'on prenne la route doucement vers Saint-Brieuc, puisque de toute façon on avait une heure de route. Et donc je lui dis, bah, on prend la route et puis on voit quoi. Et là, en effet, je regardais l'heure et puis je voyais tous les 5 minutes contraction, quoi. Donc là, je me suis dit, bah, c'est bon, quoi. Et donc, arrivé à Plérin, donc un quart d'heure avant, je dis à Yann, par contre, là, moi, j'avais dit qu'on irait au resto. Enfin, je m'étais mise dans la tête que j'allais manger. J'avais faim. Et j'ai dit, Yann, le souci, c'est que moi, je sais pas jusqu'à quelle heure j'y suis, quoi. Et j'ai trop faim. Mais j'ai jamais pensé qu'il fallait pas manger avant la coucher, quoi. Enfin... Et donc, je lui dis, ben, arrête-toi, McDo. Et donc, j'étais dans le drive du McDo, et puis j'avais des contractions, mais de malade. Je me tenais à la poignée, là, pour souffler. Et puis, il y avait de la queue pas possible. Et puis, je lui dis, non, mais tu crois vraiment que le gars, il nous croirait si on disait qu'on allait à la mater après, quoi. Et puis, on lui a pas dit, mais on en rigolait, parce qu'on se dit, mais c'est dingue, quoi. Et donc, je prends juste un tout petit sandwich, un cheeseburger, mais tout simple. Et je dis, au moins, ça va me caler pour... je sais pas, mais ça me calera, quoi. Et on arrive sur le parking, et Yoann me dit, est-ce que j'ai le temps de fumer ma clope ? Je dis, bah oui, vas-y, tout va bien. J'avais juste des contractions tous les 5 minutes, mais pas stressé, les parents, quoi. Vraiment pas stressé. Et en fait, on arrive à la mater, et puis elle me consulte, elle me fait le monito... Et puis du coup, elle me dit, bon ben là, de toute façon, voilà, ça va être bientôt. Donc, ils me mettent en salle d'accouchement. Et donc, on est arrivé à l'hôpital, on est arrivé à 9h. Et j'ai accouché de Fergus à 3h20. Donc, en 5h30, c'était fait, quoi.
Comment ça s'est passé, la rencontre ?
C'était hyper émouvant. C'était dingue parce que, en fait, il était peut-être 5, 6, 7 fois plus gros que les enfants. Le visage, le même. Donc, c'est dur. Parce que finalement, on revoit le visage des triplés en pleine face. Parce qu'il fallait savoir que Paulou, Laszlo et Faust, ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Tous les trois, c'était les mêmes. Et là, ben, Fergus qui arrive. Et Fergus, ben, le même visage, quoi. Mais en plus gros, quoi. Et en bonne santé, et joufflu. Et en fait, mes parents et ma sœur étaient... Ils avaient appris que j'étais partie à la mater. Et du coup, ma maman, on est très proches, en fait. Et elle me dit... donc, elle dit à Yuan, écoute, on va monter. Donc, ils sont montés... ils sont arrivés peut-être à 11h. Mais Yuan, il leur dit, mais... ça se trouve, elle va pas accoucher avant 7h, 8h, enfin, on n'en sait rien. Et donc, du coup, maman dit à Johan, écoute, t'inquiète pas pour nous, on attend dans la salle d'attente et on verra, au pire, à 4h, on partira. Mais elle dit, c'est quand même dommage s'il naît à 4h30, enfin, voilà, quoi. Et donc, du coup, ils étaient là et à 3h-20, quand il est né, Fergus, bah, du coup... ils ont réussi, ils ont eu le droit de rentrer dans la salle après, donc on avait fait tous les soins et tout, et donc du coup ils sont rentrés peut-être à 3h du matin, quoi. Et là, bah, rencontre magique, quoi. Enfin, c'est émouvant. Enfin, c'était le premier de mon côté, le troisième premier en vie de mon côté, le troisième en vie du côté de Johan. Et du coup, c'est de l'émotion, quoi. Et c'est vrai qu'on a tous souffert de cette histoire. Et donc, du coup, bah, là, ça a redonné de l'espoir, quoi. Et donc, du coup, super. Enfin, c'était vraiment... Tout le monde l'attendait. C'était un bébé... c'est un bébé, par contre, qu'on s'est toujours dit qu'on ne surprotégerait pas. Qu'il ne fallait pas qu'on tombe dans ces travers-là, de se dire on le met sous une cloche, il n'a pas le droit de faire ci, il n'a pas le droit de faire ça, il a le droit à tout. Non, c'était hors de question. On est des parents, je pense, droit, c'est sûr. Il faut que ça avance, il faut que il a pas le droit de faire de travers, mais en même temps c'est comme ça quoi. Parce que si on tombe un peu dans les travers de ben non il a le droit, ben il peut en jouer, enfin, et puis on avait aussi peur de cette de ce, il fallait qu'on fasse notre histoire, de se dire aussi ben tu sais, t'as eu 3 grands frères avant, mais c'est pas parce qu'ils sont plus là que t'es là quoi, enfin, il faut trouver sa place aussi, donc du coup et en fait c'est un petit garçon qui est très 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 émotif. C'est un petit garçon qui, bah, en fait il a le même caractère que moi en fait, il est très émotif comme moi, et par contre il est soucieux du bien-être de tout le monde. C'est papa, est-ce que ça va, si on a des contrariétés, il le voit. Et ça, c'est compliqué en fait, parce que du coup des fois je m'en veux, parce que je me dis il a pas à subir tout ça en fait. Et en fait c'est par moments c'est lui qui vient nous voir et qui nous dit mais maman, tout va bien, hein? Ben oui tout va bien, Fergus. Et donc du coup, mais il est tellement adorable ce petit que, enfin, on est heureux, et ça nous a vraiment fait du bien, et ça nous a aidé, ça nous a aidé à progresser dans ce deuil là et dans cette partie de redonner du sens à notre vie aussi quoi. Et donc voilà, et puis après on a fait notre petite vie à 3 pendant un moment. On s'était dit que on aurait des enfants rapprochés, pas trop éloignés. Moi quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu en avoir 4 en fait. Donc quand on nous avait donné le cadeau d'en avoir 3, je me disais bon ben il y aura plus qu'un petit 4e, puis c'est bon, c'est fait. Et puis là en fait on nous avait donné 3, on nous les a retirés, et donc là psychologiquement tu te dis t'es obligé minimum d'en avoir encore 3 autres, parce que tu peux pas t'en occuper, tu peux pas, ces 3 bébés là tu les verras pas jouer dans le jardin, t'as jamais pu leur changer leur couche, t'as jamais pu leur donner à manger, enfin c'est plein de choses que du coup on se dit non. Et aujourd'hui en fait on est super content, parce que finalement Fergus, on a réussi à profiter avec lui, et puis moi je suis retombée enceinte décembre 2017
d'une petite fille cette fois-ci.
Elle est née donc en septembre 2018, le 29 septembre. Et puis alors là, quand on a appris que c'était une petite fille, Yoann il m'a dit mais je vais faire quoi avec une fille? Parce que du coup on avait 4 gars, donc du coup on s'était dit et puis même pour nous trouver un prénom de fille, ça a été super compliqué, parce que nous on avait que des prénoms de gars. Et en fait moi j'étais super heureuse, parce que je me suis dit c'est en plus comme on dit c'est la chance le choix du roi, et donc on a le droit d'avoir un petit garçon, une petite fille, et aujourd'hui en fait quand je vois Yoann et sa fille, je savais que ça serait ça. C'est le papa gâteau avec son fils et sa fille, et aujourd'hui c'est hyper fort. C'est une histoire en fait, c'est notre histoire, c'est une histoire qui ne nous a pas qui nous a pas brisé, mais qui nous a rendu encore plus forts. Et je me rappellerai toujours que tu me demandais tout à l'heure si on en parlait souvent de cette histoire, et c'est vrai qu'il y a eu une période où on en parlait, et un jour on s'est dit mais en fait avec cette histoire, mais en fait on pourra jamais se séparer. Parce que c'est tellement fort ce qu'on a vécu que en fait il nous est arrivé le pire, donc maintenant c'est que du mieux quoi. C'est que le meilleur qui peut nous arriver.
Et vous allez en parler aux enfants?
Moi je commence à en parler à Fergus, je commence à lui en parler, je lui en parlais quand il était petit, mais c'était abstrait. Là il a 4 ans, enfin il va avoir 4 ans, et du coup ça commence à être commencer à comprendre. Mais je veux pas le brusquer, quoi. Enfin, je veux le laisser. Je lui en ai parlé, je lui ai donné des petites touches. Et puis, s'il a des questions, il peut revenir vers moi. Et parce que c'est vrai que Johan, lui, il a plus facilement... ouais, c'est plus facile pour lui, en fait, de pouvoir penser que au présent et au futur plutôt que de penser au passé. Même si il les oubliera jamais, il n'oubliera jamais cette histoire, mais il veut aller de l'avant, quoi. Mmh. Et puis du coup, il veut pas trop, il veut pas que les enfants subissent, en fait, cette histoire, et donc du coup, et puis ce drame, et donc du coup, en fait, il préfère, en fait, que ne pas en parler. Mais moi, j'en ai touché deux trois mots. On avait eu avec la maternité, ils nous avaient donné une pochette avec les empreintes des enfants, avec une clé USB, avec des photos. Ça, on a réussi à les ouvrir que un an et demi, 2 ans après leur décès. Et au 1 an de Fergus, donc 2 ans après. Et en fait, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper, hyper important, mais on ne veut pas les bassiner avec ça. Enfin, on ne veut pas qu'ils se sentent mal, et on ne veut pas les rendre tristes. Donc, quand ils voudront en parler, on en parlera. Mais pour l'instant, on ne veut pas trop leur faire de mal, quoi. Enfin, puis leur raconter l'histoire... Déjà que, tu vois, je disais que Fergus était très protecteur, il protège énormément sa sœur, enfin, c'est... Donc déjà, il a ce rôle-là, déjà, inconsciemment, alors ouais, je veux pas trop lui imposer ça, quoi.
Et comment tu le vis, toi, maintenant, au quotidien, 5 ans après ?
Ouais, ça va faire 5 ans, le 4 août, et en fait, je le vis bien. Je suis quelqu'un, en fait, qui a énormément de caractère, qui est hyper émotive, mais en même temps qui est hyper forte. Et ça tombe bien que tu me poses cette question, parce que finalement ça va un peu dans le sens de cette interview, et je voulais faire cette interview non pas pour qu'on me plaigne, non pas pour qu'on me dise tu te rends compte, t'as vu le drame, t'as vu, non. C'est juste pour dire qu'on peut, il faut y aller de l'avant, il faut se battre pour eux, pour l'avenir, et en fait je veux surtout pas qu'on me plaigne, en fait, et je veux surtout pas montrer que oui, des fois ça va pas, oui, des fois je pleure, oui, des fois je craque, et en même temps je me dis mais il y a tellement de bon après, que du coup il faut y aller de l'avant, quoi. Et c'est vrai que je veux surtout pas qu'on me plaigne, et parce que je pars du principe aussi que, et Johan c'est pareil, on en a discuté d'ailleurs pas plus tard que hier, et il me dit tu fais cette interview là mais il faut pas que les gens nous plaignent, et je lui dis on est d'accord là dessus je veux juste dire que c'est possible d'avancer, c'est possible d'aller mieux, il y a des cicatrices, mais les cicatrices il faut faire attention avec. Et en fait, je veux aussi donner de l'espoir à toutes ces mamans qui vivent ces histoires-là, et même à toutes ces personnes, parce que quelque part, même sans être maman, sans vivre ce drame-là, il y a d'autres drames, et tout le monde a des drames dans sa vie. Et du coup, pour moi, chacun a son niveau, et du coup, je veux surtout pas me faire plaindre, quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
C'est la vie. Pour moi, c'est la maternité, c'est le plus beau cadeau qu'on peut nous offrir. Je suis tellement heureuse aujourd'hui. J'ai un futur mari qui m'aime. J'ai des enfants qui sont trop beaux. Alors, je suis pas objective parce que je suis la maman, mais ils m'apportent tellement, tellement, tellement que... Mais en fait, j'en veux d'autres, quoi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ouais.
Alors, c'est quoi pour toi être une maman bretonne ?
Eh bien, une maman bretonne, c'est une maman qui est à la mer et à la campagne en même temps, qui profite de ses enfants et qui arrive à prendre du temps pour ses enfants. On est au vert toute l'année. On a du soleil, on a de la pluie, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et ouais, c'est génial.
Est-ce que tu as un endroit kids-friendly préféré ?
Et ben chez nous, en Bretagne, on a pas beaucoup d'endroits pour où les enfants puissent jouer ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus la nature, en fait. Mmh. Et c'est pas des endroits, en fait, comme à Paris, par exemple. Mais nous, on a la ferme, on a la mer. Nous, par exemple, on est à 300 mètres de la mer, donc du coup, on va beaucoup, beaucoup à la plage. C'est beaucoup de vélo. On est dehors toute l'année, en fait, quoi. Et du coup, c'est un cadre de vie que on s'est posé la question de savoir si un jour on voulait pas partir dans une ville, Paris ou autre. Et en fait, on se dit à côté, mais on a tellement de chance d'être à la mer et à la campagne en même temps, donc du coup, on reste là-bas.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Ben, mes projets rien que pour moi, c'est de continuer à vivre ma vie, d'arriver aussi bien professionnellement que personnellement, d'évoluer, toujours évoluer. Et en famille, on a prévu, donc on se marie au mois de septembre. Et pour nous, c'est un gros aboutissant aussi de notre vie de famille. Les triplés nous ont ouvert notre livret de famille et puis là, on va faire le mariage. Donc c'est juste ce que j'attendais le plus au monde. Et puis après, plein de voyages avec nos enfants et puis d'autres bébés par la suite.
Merci beaucoup Marie-Adeline.
Merci à toi Shane.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marie-Adeline, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 31 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.